Dans l'actualité des idées aujourd'hui, les sociétés ouvertes sont-elles en danger? Au lendemain de la réélection de Recep Erdogan, vainqueur de la présidentielle turque, dès le premier tour, avec un peu plus de 52% des voix, l'hyper-président a désormais les pleins pouvoirs avec la légitimité des présidents élus démocratiquement. Mais peut-on encore parler en Turquie ou ailleurs de démocratie quand une fois au pouvoir, les libertés fondamentales des citoyens sont restreintes, la voix et les droits de l'opposition réduits? Il défend, lui, une parole qui transforme le monde et d'y questionner les promesses non tenues de la modernité à la manière de Jürgen Habermas et trouver la politique là où on ne la cherche pas. Le philosophe Michael Fossel est donc notre invité, professeur à l'école polytechnique, directeur de collection aux éditions du Seuil, membre aussi du comité de la rédaction de la revue Esprit, dont le dernier numéro, coordonné par Camille Riquier et Frédéric Worms, interroge la société ouverte. Auteur, par ailleurs, quant à lui, d'essais comme la privation de l'intime au Seuil et de l'avenir de la liberté au PUF, dans AOC, ce mois-ci, il a écrit une contribution intitulée « La démocratie illibérale n'existe pas ». Michael Fossel est bien notre invité jusqu'à 13h30. Bonjour.
Bonjour.
Démocratie illibérale, le concept n'est pas nouveau, mais qu'est-ce qu'il désigne? Le droit contre les urnes, on pourrait résumer cela comme ça?
Dans l'esprit de celui qui a forgé cette notion, cette formule, qui s'appelle Zakaria, qui est un politiste américain qui a forgé cette formule à la fin des années 90, effectivement, il s'agissait de montrer que, dans son esprit, je le répète, la démocratie qui était, il faut le rappeler aussi pour le contexte, promise comme étant le régime naturel d'une société de marché ou d'un capitalisme désormais sans adversaire après la chute du mur, la démocratie entraînait une forme de pathologie dans un certain nombre de pays, c'est-à-dire que, selon lui, l'appel au peuple, effectivement, la légitimation par les urnes, prenait le pas sur la légitimation par le droit, et qu'il se trouvait toute une série de pays dans lesquels on continuait à voter, dans lesquels, autant qu'on puisse le dire, les élections étaient relativement, sinon libres, du moins honnêtes, mais où, par toute une série d'atteintes aux droits fondamentaux des citoyens, là, le libéralisme se retrouvait remis en cause. Si par libéralisme on entend, sans doute on y reviendra, le libéralisme politique, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs.
C'est le cas en tout cas dans cette expression ou ce concept de démocratie illibérale. C'est bien d'un libéralisme politique dont on parle en tout cas dans la manière dont ce concept a été formulé.
C'est d'ailleurs une de ses ambiguïtés, me semble-t-il, parce que du coup l'aspect économique du libéralisme est un peu passé sous silence.
C'est quand même ce qui se passe en ce moment, ce que vous décrivez précisément, ou pas?
Ah, c'est ce qui se passe
quand
si
on parle de démocratie libérale.
Alors, si on réduit la démocratie aux élections, et même à une dimension de l'élection qui exclut un petit peu le pluralisme non seulement partisan, celui-là il existe plus ou moins dans les pays dont on parle, la Hongrie, la Pologne, la Turquie, mais si l'on exclut de l'élection les conditions mêmes qui garantissent, disons, sa pluralité, c'est-à-dire en particulier les conditions liées à l'information et à un minimum de transparence, alors effectivement on peut parler de démocratie non libérale, anti-libérale, illibérale, mais ce qui me paraît...
Et pourquoi pas liberticide aussi?
Ou liberticide, certainement, ce qui me paraîtrait déjà plus vrai ou plus juste, parce que la formule démocratie illibérale, qui a rencontré un grand succès, et dont il faut d'ailleurs noter, paradoxalement, qu'elle est revendiquée par ceux qui s'y inscrivent, c'est le cas d'Orban, et qu'elle est aussi critiquée par ceux qui s'y opposent, qui est le cas de l'actuel président de la République. Donc déjà, ce consensus autour de cette notion peut-être est un peu troublant. Mais si on prend les choses, bon là c'est le défaut peut-être du philosophe, si on prend les choses au niveau notionnel, si on parle de démocratie illibérale, alors cela implique que tout ce qu'il y a de désirable dans la démocratie vient du libéralisme. Et que tout ce qui, en revanche, peut être à l'intérieur de la démocratie porteur d'effets autoritaires, c'est au peuple ou aux citoyens qu'il faut l'affecter d'une certaine manière. Et donc, il m'a semblé intéressant d'un peu de déconstruire cette notion, de voir ses limites et de montrer que peut-être elle était non seulement discutable, mais en même temps un peu aveuglante sur l'état du présent.
Ce que vous dites, c'est que ses partisans comme ses détracteurs emploient ce concept de démocratie illibérale. Pour en dire quoi? En fait, finalement, qu'est-ce qu'un Viktor Orban, quand il peut employer cette expression en Hongrie, dans quel sens est-ce qu'il l'utilise? Qu'est-ce qu'il y met, lui, dedans?
Alors, on peut citer la réaction qu'Orban a eue à l'élection de Donald Trump, en 2016. Il a dit « La non-démocratie libérale, c'est terminé. Quelle journée Quelle journée ? Alors la non-démocratie libérale, je suppose que dans son esprit, cela veut dire que le libéralisme politique est un frein à la démocratie. C'est-à-dire un frein à ce qu'il entend, lui, être la voix du peuple que, évidemment, il prétend incarner. Et de ce point de vue-là, on retrouve effectivement, je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas des effets anti ou des dimensions, pardon, anti-libérales dans ces pays, en particulier récemment la Pologne. Le gouvernement polonais s'est caractérisé par la remise en cause du droit de la Cour constitutionnelle. Donc si par libéralisme on entend le fait de limiter les pouvoirs, la souveraineté, on l'évoquait rapidement tout à l'heure, la souveraineté du peuple par des principes de droit. Un peuple ne peut pas tout, il ne peut pas par exemple décider, même majoritairement, de s'en prendre à une minorité de sa population. Si on entend par donc libéralisme le fait de vouloir instaurer des principes que même la volonté du peuple ne peut pas remettre en cause, alors de ce point de vue-là, je pense que ce qu'Orban veut dire, c'est que le libéralisme, l'état de droit, en réalité, est battu désormais par ce qu'on appellerait aujourd'hui des mouvements populistes, c'est-à-dire qui passe par-dessus toutes les médiations juridiques, passe par-dessus la société civile pour s'adresser directement, le dirigeant s'adresse directement au peuple. De ce point de vue, certainement, il y a une dimension antilibérale, mais je crois que ce qui est un peu le point aveugle de cette formule, c'est que ni la Pologne, ni la Hongrie, ni certainement d'ailleurs la Turquie, ni même si on va jusque-là, il faudrait discuter si la formule s'applique à ce pays, la Russie, ne sont des pays anti-libéraux, si on entend cette fois-ci au sens du libéralisme économique et du fait, qui est peut-être le plus préoccupant, de réduire la liberté des citoyens à cette dimension économique.
Peut-être un mot, parce que Bismarck disait la force prime le droit, et là c'est le peuple qui prime le droit, finalement c'est ce qui est affiché par ces gouvernements, si le peuple le veut, le droit n'a qu'à s'incliner. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça finalement ?
Alors, on peut répondre qu'il y a plusieurs définitions du peuple. Le peuple d'Orban et le peuple de ce qu'on appelle, à tort ou à raison, j'aime pas beaucoup la formule populisme, c'est un peuple qui n'existe finalement que dans la voix du démagogue ou que dans la parole du démagogue et où appartient au peuple ce que je dis appartenir à lui. Et d'ailleurs, ce type de dirigeant, systématiquement, on l'a vérifié encore récemment avec le ministre de l'Intérieur italien, Salvini, à chaque fois qu'il nomme le peuple, nomme en réalité ce qu'il appelle le bon peuple, par opposition à ceux, c'était les Roms, en l'occurrence italiens. Bon, il regrettait, le ministre de l'Intérieur, de ne pas pouvoir expulser les Roms de nationalité italienne. Autrement dit ici, c'est un peuple clivé, d'une certaine manière. C'est le peuple magyar pour la Hongrie, c'est le peuple catholique et de la Pologne éternelle pour le gouvernement de Kaczynski. Mais ce n'est jamais le peuple tel qu'on l'entend, je dirais, dans la voie traditionnelle républicaine, hein, celle qui a été inaugurée par Rousseau, c'est-à-dire un peuple qui n'est pas exclusif ni d'une ethnie ni d'une culture, un peuple qui se définit politiquement par l'adhésion active au principe de ce que Rousseau appelait le contrat social. Autrement dit, évidemment, le concept de peuple est extrêmement équivoque. Et là aussi, si on parle de populisme, un peu comme quand on parle de démocratie libérale, on abandonne la démocratie, le concept, la chose elle-même, à ce que je considère moi comme ses ennemis, eh bien, dans le populisme, on abandonne la définition du peuple à ceux qui, en réalité, en ont une conception extrêmement autoritaire.
Mais ce qui est dangereux, c'est qu'à vous écouter, à ce rythme-là, on pourrait supprimer le temps de l'élection. Est-ce que vous n'êtes pas aussi en train de dire qu'il vaudrait peut-être mieux des dirigeants désignés, mais respectueux des institutions et de l'état de droit et du débat, que des dirigeants élus par les urnes, par le suffrage citoyen, qui ne respectent pas l'ensemble de ces principes liés à l'état de droit ?
Ah ben non, pas du tout. J'essaie même de dire le contraire, parce que précisément, un libéralisme qui serait non démocratique, c'est-à-dire un état de droit qui ne recourrait pas à la souveraineté du peuple. D'abord, ça a existé dans l'histoire. Hein, très longtemps, l'Angleterre était un état de droit sans être une démocratie. Et d'autre part, il me semble qu'effectivement, on ne peut pas penser la démocratie sans, à un moment ou à un autre, évidemment, faire appel à la souveraineté du peuple. Mais je le répète, encore faut-il savoir comment définir, comment interpeller, comment nommer le peuple autrement que d'une manière, je dirais, ethnique ou culturaliste. Donc, c'est au contraire, parce qu'il me semble que la démocratie implique l'élection, mais ne se réduit pas à elle, qu'on ne peut pas parler de démocratie illibérale, par exemple, à propos de la Turquie, où vraisemblablement Erdogan, même s'il y a eu de toute évidence ici ou là des malversations électorales, bon, il est à craindre que malgré tout, dans l'opinion publique turque actuelle, il soit demeure majoritaire. Pour autant, faut-il dire que nous avons affaire ici à une démocratie ? Je n'en suis pas sûr du tout, et même je pense le contraire.
Et diriez-vous, Michael Fossel, comme Pierre-Rose Anvallon, invité des matins de France Culture lundi à l'occasion des 10 ans de la vie des idées, que...
La démocratie, ça n'est pas simplement le pouvoir de tous tel qu'il est exprimé de façon approximative par la majorité. Le pouvoir de tous, il existe aussi sur le fait qu'il y a des institutions sur lesquelles personne ne peut mettre la main, à savoir des autorités indépendantes. Si par exemple ce sont les pouvoirs qui décident eux-mêmes du découpage électoral, eh bien on voit déjà qu'il y a une façon de fausser la démocratie. Donc il y a intérêt à ce qu'il y ait des autorités indépendantes pour surveiller les scrutins et pour pratiquer le découpage électoral. Donc la démocratie n'est pas simplement le pouvoir majoritaire, elle est aussi le pouvoir de personne, c'est-à-dire qu'elle met en place des pouvoirs sur lesquels personne ne peut mettre la main. Or, tous ces régimes, justement, par exemple, eh bien, ils luttent contre les autorités indépendantes. Ils massacrent ces autorités indépendantes en disant, mais qu'est-ce qu'elles représentent ? Nous, nous sommes élus, ces autorités ne sont pas élues. Eh bien, il y a des autorités, il y a des formes de pouvoir non élus qui appartiennent à la démocratie. C'est le cas des cours constitutionnelles aussi. Qu'est-ce qu'une cour constitutionnelle ? Une cour constitutionnelle, c'est ce qui organise les principes généraux de l'organisation politique et l'organisation générale des droits. Donc, une cour constitutionnelle, c'est celle qui, d'un certain point de vue, représente le plus petit des citoyens, parce que chacun peut faire appel à ses droits. Eh bien, là aussi, ces cours constitutionnelles, elles sont très souvent remises en cause dans ces régimes. Donc, au lieu de dire qu'il s'agit simplement de démocratie libérale, comme s'il y avait d'un côté une vraie démocratie et de l'autre côté un petit illibéralisme malheureux. Non, ce sont des démocraties tronquées et ce sont des démocraties restreintes.
Mmh. Quel est pour vous, Michael Fossel, le plus petit dénominateur commun de la démocratie ?
La démocratie, d'une certaine manière, c'est ce qui est fondé, c'est un petit peu l'idée que développait Pierre-Rose Anvallon, mais sur ce que Claude Lefort, qui est certainement un des auteurs, quand même, à mes yeux du moins, le plus important sur la question de la démocratie moderne, appelait le lieu vide du pouvoir. C'est-à-dire cette idée, Pierre-Rose Anvallon disait, on ne peut pas prendre la main sur un certain nombre d'institutions, on peut le formuler en disant que la démocratie, ce n'est pas simplement un régime politique, c'est cette forme de société où le pouvoir ne s'incarne plus dans un sens. N'est plus en quelque sorte l'attribut ni d'un individu, le prince, ni d'un parti, ni d'une organisation ecclésiastique, par exemple. Autrement dit, il y a une indétermination démocratique. Le pouvoir se rejoue, par exemple, c'est ça le sens de l'élection, il se rejoue par la voie du nombre de manière régulière grâce aux élections. Et donc évidemment, ça crée cette indétermination, le fait de ne plus pouvoir situer la légitimité du pouvoir, qui a longtemps été de nature théologique ou religieuse en Europe, ne plus pouvoir la situer dans une origine qui soit une origine incontestable, le fait que le pouvoir soit sans cesse remis en cause, que, pour reprendre encore une formule de Lefort, il y a une légitimité du débat sur le légitime et l'illégitime. Ça ne veut pas dire simplement qu'on discute de ce qui est légitime et de ce qui ne l'est pas. Ça veut dire que ce qui est légitime, c'est d'en discuter de manière, je dirais, indéfinie, jusqu'à temps que le peuple, pour le coup, tranche, mais toujours de manière provisoire. Alors, je dirais, le plus petit dénominateur commun, effectivement, d'une société démocratique, pas simplement d'un régime démocratique où l'on vote, d'une société démocratique, c'est le pluralisme et le conflit. Or, si l'on prend par exemple la Hongrie, on se rend compte qu'en réalité, dans ce type d'État, alors évidemment, ils sont difficiles à nommer parce que nous sommes confrontés à quelque chose de nouveau. On ne peut difficilement attribuer les catégories de totalitarisme, de dictature, à ces États. Alors, de ce point de vue-là, moi, je n'ai pas non plus, évidemment, de formule toute faite pour les caractériser. Mais ce qui me semble tout à fait essentiel, c'est qu'il y a une idéologie d'État qui se met en place et qui interdit à la société civile d'exercer son rôle, disons, pluraliste de conflictualité. Puisqu'on le voit dans toutes les lois qui sont votées ou en Hongrie ou en Pologne, il y a des interdits qui portent sur la définition de ce que c'est qu'être hongrois, la définition de l'histoire de la Pologne, la manière dont, au fond, la société se représente elle-même sa propre diversité. Alors je dirais que ce qui fait que ces soi-disant démocraties libérales ne sont pas du tout des démocraties, c'est précisément qu'elles qu'elles interdisent en quelque sorte, en tout cas qu'elles dénigrent la culture du conflit et de l'indétermination.
Ça voudrait dire que la démocratie ne serait vraiment possible qu'avec une identité ouverte aussi ?
Ah, certainement, et peut-être d'ailleurs même avec une relativisation de ce concept d'identité. Parce que c'est pas simplement de dire qu'il y a des identités plurielles, c'est de comprendre que l'unité nationale ou d'identité nationale est sans cesse remise en cause, remise en question par la pluralité des voix qui tentent de la définir. Et par conséquent, avoir une conception extrêmement, quasiment organiciste de l'histoire, par exemple, d'un pays, avoir une idéologie officielle qui bloque par avance, on le voit très clairement avec l'aspect religieux en Turquie, qui interdit par avance un certain nombre de prises de position politiques, appeler cela une démocratie même illibérale, c'est en quelque sorte abandonner à l'adversaire la principale de ses revendications, c'est-à-dire précisément de parler enfin au nom du peuple, d'un peuple plus ou moins fantasmé, plus ou moins purifié.
Antoine, merci. C'est même un paradoxe parce que ces démocraties dites illibérales, en Europe en tout cas, au sein de la communauté européenne, de l'Union européenne, sont précisément le résultat, on les présente en tout cas comme étant des réactions à ce que l'Europe fait dans ce qu'elle a aussi de relativement peu démocratique. Par exemple, en tout cas en tant que légitimité, vous parliez de pouvoirs autonomes à l'intérieur des États, ce qui est une chose, mais par exemple la Commission européenne, les critiques qui sont produites sur le fait qu'elle ne soit pas effectivement élue, qu'elle ne représente pas véritablement une souveraineté populaire et qu'en revanche, elle ait un grand pouvoir sur les nations et sur y compris la souveraineté des nations. C'est comme ça que c'est perçu, en tout cas. Je ne dis pas forcément que c'est le cas. Et que donc, c'est à partir de cette menace-là supposée que vienne au contraire s'élever une voix en disant « redonnons le pouvoir au peuple ». Comment vous analysez cette articulation et est-ce que vous croyez à ce mouvement de contrepoids ou de contre-coup ?
Certainement, parce que les pays dont nous parlons sont des pays d'ancienne Europe communiste, donc où la culture démocratique n'a pas eu le temps, si je puis dire, de s'inscrire dans la société civile, et où d'autre part, effectivement, il y a une réaction à la première période de qui a suivi la chute du mur, c'est-à-dire une période de dérégulation, une période, disons, de privatisation généralisée de l'économie, qui fait qu'il y a une réaction nationaliste, souverainiste en un sens, face à ces évolutions politiques. Qu'ensuite l'Europe ait été perçue comme l'Europe, l'institution européenne, je veux dire, comme une agression par un certain nombre de des citoyens de ces pays, c'est tout à fait incontestable. Et c'est là qu'il faut rappeler que l'institution européenne est largement fondée sur ce qu'on appelle l'ordolibéralisme, c'est-à-dire cette idée que, ou plutôt cette doctrine, selon laquelle le marché et le droit d'une certaine manière, suffirait à définir l'espace politique démocratique. Hein. Les droits fondamentaux, on voit ça, c'est une doctrine très présente en Allemagne, et d'ailleurs qui a été inventée par des Allemands, c'est-à-dire que la liberté d'entreprendre constitue la liberté fondamentale, en quelque sorte, et qu'elle doit être garantie, et d'une certaine manière même promue, c'est la concurrence libre et non faussée, par le droit. Alors, c'est là aussi où la formule démocratie illibérale, à mon avis, est un petit peu aveuglante, parce que elle exonère le libéralisme, alors cette fois-ci dans sa dimension économique, de tous les torts dans ce qu'il faut bien considérer aujourd'hui comme un désamour pour la démocratie qui ne se limite pas à ces pays d'Europe orientale. Il y a, je parlerai moi plutôt que de démocratie libérale, de libéralisme autoritaire, parce qu'on constate quand même que, si on entend cette fois-ci libéralisme au sens économique, qu'il n'est jamais remis en cause le principe même de la marchandisation du monde, puisque même le droit est considéré bien souvent comme une marchandise dans ces pays. Autrement dit, dans le divorce auquel on assiste depuis une vingtaine d'années maintenant, à mon sens, entre la démocratie politique comme forme de société et puis le capitalisme financiarisé, eh bien, il me paraît un petit peu injuste, simplement, de faire porter la faute exclusivement du côté de la démocratie. Nous sommes, effectivement, dans une période où nous ne pouvons plus dire, comme on a pu le dire en 89 avec Fukuyama, on ne peut plus dire que, définitivement, le marché la démocratie, que les droits de l'homme et le capitalisme se rencontraient naturellement dans l'histoire et que c'en était fini de l'histoire, en quelque sorte. En réalité, non. On parle de démocratie illibérale, parce qu'on constate qu'il y a encore de l'histoire, pour le pire en l'occurrence, mais c'est souvent par la tragédie que l'histoire se rappelle à nous, et que la, disons pour le dire rapidement, les lois du marché ou la dérégulation, la liberté économique seule, n'est en aucune manière une garantie de liberté juridique et de démocratie.
Comment on peut expliquer ça précisément ? On le voit pour Trump aussi, c'est un peu la même chose. Il y a une volonté de reprendre une politique nationale et cependant, aucun élément qui permette de dire qu'il veut sortir, au contraire, d'une politique libérale ou néolibérale. Donc comment on peut comprendre qu'une nation ou des nations reprennent en quelque sorte ou veuillent reprendre leur souveraineté sans que cela nuise à ces échanges mondiaux et à l'ouverture au monde?
On voit bien aujourd'hui, là je ne suis pas du tout spécialiste de géopolitique,
c'est quand même un paradoxe,
mais on voit que le débat se joue, si on peut dire le débat, ou en tout cas la confrontation, se joue entre, disons, ceux qui voudraient revenir plutôt à un capitalisme national, on aurait dit dans une langue bien oubliée, un capitalisme monopolistique d'État autrefois, et puis les partisans du libre-échangisme. On a d'un côté donc le nationalisme économique, et puis de l'autre le mondialisme libre-échangiste. Ce qui fait d'ailleurs, c'est un aspect, si on dit les choses de manière, ou on exprime les choses de manière un peu politique, là je reviens d'Allemagne, le débat aujourd'hui en Europe, dans le monde, se joue en quelque sorte entre deux tendances, dirons-nous, de la droite, quoi. C'est-à-dire la gauche est totalement absente, spectatrice de ce débat. En Allemagne, on le voit bien, on a d'un côté un parti de droite qui veut revenir à du national, sur la question des migrants, mais certainement aussi avec l'AFD sur la question économique, et puis de l'autre, une représentante plus du libéralisme, pour le coup traditionnel, libre-échangiste. Alors évidemment, si cette opposition entre nationalisme économique d'un côté, Trump, vous l'avez dit, peut-être Poutine, après tout, sans doute aussi, et puis libre-échangisme dérégulé est une alternative, autrement dit, s'il n'y a pas de tiers exclus, alors je dirais qu'indépendamment des questions de positionnement à gauche ou à droite, on peut se faire du souci pour la démocratie, parce que c'est souvent, vous l'avez rappelé même pour les pays comme la Hongrie ou la Pologne, c'est un excès de libre-échangisme qui amène un désir de renationalisation. Mais ce désir de renationalisation, il peut passer par deux voies. Soit on essaie de renationaliser le politique, et dans ce cas-là, on peut approfondir la démocratie, soit on ne l'envisage que comme renationalisation économique. Et dans ce cas-là, je dirais que nous soyons victimes des multinationales ou des monopoles économiques nationaux, ça ne me paraît pas être, pour la plupart des citoyens, une différence absolument fondamentale.
Michael Fossel est notre invité jusqu'à 13h30 pour l'heure sur France Culture. Il est 13h19.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Vous avez évoqué Michael Fossel, Francis Fukuyama à l'instant. 20 ans après la parution de son ouvrage phare, La fin de l'histoire, il revient dans les colonnes du Monde sur sa prophétie et la corrige. Le monde ouvert est démocratique et sous pression, dit-il dans les colonnes du Monde, soulignant une tendance à la récession démocratique et estimant, je le cite, que les menaces les plus insidieuses contre le modèle libéral viennent de l'intérieur, de pays démocratiques où des politiciens populistes profitent de la légitimité qu'ils ont acquise en cours d'élections libres pour remettre en cause les deux premiers piliers de la démocratie, l'état de droit qu'il contourne et les institutions de l'état qu'il corrompt. Pour d'autres, et c'est le cas notamment de l'historien des idées François Cusset, invité de la Grande Table en 2010 pour commenter l'œuvre de Fukuyama, au contraire, très rapidement, les faits ont démenti cette prophétie et n'ont pas attendu aujourd'hui.
De quoi Fukuyama est-il le nom ? Ce serait ça la question. Peut-être d'un évangile nouveau, vite révolu, en tout cas d'une grave erreur de jugement sur l'histoire, ou sur la fin de l'histoire, vite contredite par la dite histoire. La thèse de son article de 1989, donc étendue en livre en 92, c'est que la chute du mur de Berlin serait beaucoup plus que la fin de la guerre froide. Ce serait le consensus désormais sur la démocratie libérale de marché, faut préciser, son extension prévisible à l'infini, qui serait la forme finale, finalement, du gouvernement humain, la fin, au sens de finalité du développement humain, une sorte de forme politique stabilisée et définitive, un peu comme la théorisait le philosophe français Alexandre Kojève dont on verra qu'il est un peu le mentor ou le modèle de Fukuyama. Les critiques ont été immédiates, hein, il y a 20 ans, de Derrida jusqu'aux marxistes, et la presse, bien sûr, qui a vite caricaturé sa thèse, comme si c'était la fin des événements eux-mêmes, hein, il ne se passera plus rien, c'était l'époque des discours de la fin. Mais il faut quand même voir que ce livre, c'est une forme assez idéologique de science politique, qui va d'abord être contredite par les faits. Hein. Souvenons-nous, qu'est-ce que c'est que les années 90 ? C'est le retour de la guerre partout dans le monde, c'est le creusement brutal des inégalités économiques et sociales avec des souffrances inédites. C'est l'essor d'États autoritaires à très forte croissance économique, hein, du Golfe Persique jusqu'à la Chine, qui nous démontre qu'effectivement capitalisme et démocratie ne sont pas indissociables. C'est l'essor des biotechnologies, danger pour la démocratie, Fukuyama en conviendra lui-même. Et c'est bien sûr, au bout de 10 ans, le coup de tonnerre du 11 septembre 2001, que certains commentateurs, pour moquer Fukuyama, appelleront la fin de la fin de l'histoire, le retour de l'histoire.
Ce qui se joue aujourd'hui, Michael Fossel, est-il pour vous aussi un démenti formel de cette thèse qu'il a émise, conçue dans les années 90 ?
Je dirais oui et non, parce que la thèse de Fukuyama, c'est effectivement ce qui vient d'en être dit. Elle est un peu plus subtile parfois, mais tout dépend de ce qu'on appelle histoire. La fin de l'histoire, si cela veut dire, mais je suis pas sûr que ce soit essentiellement ou uniquement cela que Fukuyama entendait, la fin des événements, il ne va plus rien se passer, c'est certainement pas advenu, et nous constatons, on l'a constaté aussi au niveau économique avec la crise de 2007, que le monde est assujetti encore à des événements de nature tellurique, et que la mondialisation, au fond, ce n'est pas la fin des événements, ce serait plutôt sa généralisation, leur globalisation au monde entier. Ce qui se passe en Syrie a des effets, on le voit aujourd'hui, au cœur de l'Europe. Alors, donc ce n'est pas la fin de l'histoire au sens où nous aurions été dans une période, je dirais, ou paradisiaque ou infernale, mais dans lesquelles, au fond, le temps n'apporte rien. Maintenant, si on entend par histoire ce qu'on a entendu quand même depuis la philosophie des Lumières, c'est-à-dire un mouvement général vers le progrès, un mouvement qui est un mouvement du temps ou une temporalité qui est orientée vers un but, qui soit celui de l'émancipation, qui soit collective, ou qui soit celui justement de la démocratisation, alors nous vivons dans une situation paradoxale où les événements sont présents, de plus en plus vécus d'ailleurs, le traitement de l'information le montre sur un mode disruptif, mais justement ce sont des événements ce sont des faits, des news comme on dit, qui ne sont plus orientés, dont il est très difficile de donner ou de fournir un principe d'interprétation générale comme on a pu le faire lorsqu'on croyait encore, alors certains à l'idéologie du progrès, d'autres à la lutte des classes, ou d'autres encore à l'image ou à l'idée d'une mondialisation heureuse. Donc, nous sommes toujours dans l'histoire, mais nous n'avons plus de théorie de l'histoire. Et nous n'avons plus de théorie de l'histoire, c'est-à-dire nous n'avons plus de certitude relativement à ce qui, à la manière dont nous devons nommer l'avenir, d'où d'ailleurs, probablement aussi, le désir de nommer l'avenir par le passé, c'est-à-dire les mouvements réactionnaires qui, aujourd'hui, cherchent à revenir à une identité plus ou moins fantasmée, qui de la Hongrie, qui de la Pologne, qui parfois aussi, de plus en plus souvent d'ailleurs, de la France.
Donc le fait qu'il n'y ait plus d'horizon d'attente, c'est justement le signe que l'histoire s'est terminée, puisque l'histoire était perçue comme un processus qui, évidemment, avait à la fois un passé, mais aussi un futur. C'était le principe libéralisme national d'un côté, disiez-vous, de l'autre côté mondialisme libre-échangiste, et la gauche, ou quelque chose d'autre, comme un tiers de ces deux positions, qui a beaucoup de mal à prendre place. Est-ce que vous pensez que si elle a tant de mal à prendre place, c'est pas qu'il y a une menace, j'allais dire anthropologique, sur les personnes, la capacité des personnes à résister finalement à cette tendance-là? Et peut-être, est-ce que ça peut avoir un rapport aussi à la manière dont l'individualisation se poursuit malgré tout avec la numérisation du monde? Est-ce que vous feriez une sorte d'analyse globale?
Les raisons pour lesquelles la gauche, au sens, je dirais, intellectuel du terme, a subi des défaites sont récemment très nombreuses. Si je reste au dernier point qu'on a évoqué, ce qui caractérisait les gauches, je dirais, pour le coup, quelle que soit leur orientation, qu'elles soient révolutionnaires ou réformistes, comme on dit, c'était justement un discours qui prétendait nommer l'avenir, et l'avenir désirable. alors qu'on appellera société sans classe, qu'on appellera social-démocratie, qu'on appellera justement autogestion, qui sait, bon. C'est-à-dire de porter sur le temps, finalement, un discours qui s'appuie à la fois sur une, sinon une science, du moins un certain nombre de savoirs, et en même temps sur des expériences concrètes de ce que pouvait être l'émancipation dans le cadre du travail, par exemple, ou de la famille. Alors évidemment, dans le contexte un peu catastrophiste dans lequel nous vivons, car c'est aussi un élément, à mon sens, de la sortie des philosophies de l'histoire, c'est-à-dire le fait que l'avenir, au fond, ne se nomme plus progrès, mais généralement catastrophe, crise climatique, crise économique parfois, crise écologique, eh bien cette incapacité que nous avons, ou cette difficulté du moins, que nous avons à nommer positivement un avenir qui soit un avenir collectif et non pas individuel, explique sans doute beaucoup de ce qu'on appelle la fin de l'hégémonie culturelle, à supposer qu'elle ait existé de la gauche.
Mais ma question, c'était de savoir s'il y avait un rapport avec la fragilisation de l'intime dont vous parlez par ailleurs.
Avec la fragilisation de l'intime et puis avec, l'individualisation de la politique. Aujourd'hui, la politique, elle existe toujours, mais de plus en plus souvent, on la déplace du côté, je dirais, de collectifs, de micro-collectifs ou de la vie, du côté de la vie. C'est-à-dire qu'en réalité, on pense, et pour les meilleures raisons du monde parfois, que c'est dans des actes, ce sont dans des lieux, je dirais, un petit peu autonomes par rapport à ce qui est traditionnellement le lieu du politique, c'est-à-dire l'institution, que l'on peut ou que l'on pourra, d'une certaine manière, retrouver quelque chose de cette émancipation. Alors ça, c'est le bon côté, quand ça reste encore un peu collectif. Je dirais évidemment que quand l'innovation remplace le progrès, que lorsque la réussite individuelle se substitue à l'idée d'une amélioration ou d'une émancipation de ses conditions de vie, et lorsque la privatisation du monde se substitue à l'intime, puisque vous en parliez, eh bien effectivement on est dans des processus qui certainement sont dommageables pour la démocratie, parce que c'est le lien collectif, c'est l'idée même d'une transformation du monde qui se perd et qui se fragilise.
Un mot de la situation que nous vivons ici, aujourd'hui, en France, à l'aune de la définition que vous avez donnée de la démocratie. Dans quel état est la nôtre pour vous, Michel Fossel?
Elle en a connu de meilleur. Elle en a connu de meilleur, non pas peut-être au sens de son fonctionnement institutionnel, quoique un pouvoir qui finalement a plusieurs oppositions, mais aucune n'ayant véritablement de discours ou de possibilité d'alternative, c'est toujours préoccupant. Mais alors si on prend la démocratie au sens, je dirais, que j'indiquais tout à l'heure, de forme de société, alors je dirais quand même que le nous sommes arrivés en France, hein, sans doute aussi en Europe, à un moment ou à un stade où l'idée même d'un conflit qui soit politisé, donc qui soit quand même malgré tout non brutal, non brutalisé, un conflit, c'est pour ça que la différence ou l'alternative entre la gauche et la droite a au moins ceci de vertueux, qu'elle permet de nommer le conflit sans tomber immédiatement dans des oppositions culturalistes. Bon, donc la culture du conflit, la société civile dans son indépendance par rapport aux institutions étatiques ou à celle du marché, sur tous ces points, je voudrais pas, c'est je crois la dernière semaine de votre émission, je voudrais pas évidemment participer d'un pessimisme généralisé.
C'est vrai que c'est une séquence bilan qu'on est en train de réaliser avec vous, mais vous pouvez aussi tendre vers la saison prochaine. Tendez donc une perche vers l'avenir.
L'avenir, je dirais, c'est que il s'agit quand même de comprendre justement que la démocratie, enfin comprendre et plutôt surtout d'expérimenter, peut-être ça le plus difficile, la démocratie, elle est porteuse aussi je vais dire les choses de manière un peu naïve, mais après tout, d'expériences de joie, d'expériences qui, elle n'est pas faite seulement, et elle est faite aussi de cela, hein, d'institutions, du jeu partisan, de tout ce qu'on entend aujourd'hui sous ce nom et qui le rend un petit peu indésirable. Au fond, il y a des conditions, il y a des choses que nous vivons, que nous vivrions pas dans une démocratie et qui méritent d'être interrogées depuis ce lieu-là.
Merci beaucoup à vous, Michel Fossel, d'être passé pour cette dernière semaine de la Grande Table. En effet, un grand merci à toute l'équipe qui a préparé et programmé cette émission, à Claire Maillot et Clémence Marie, à Henri Leblanc et Maxime Morin, avec l'aide précieuse de Émile Boutelier et de Liana Valken. À la réalisation aujourd'hui, Père et le Gras, avec Jacques Hubert. Merci Antoine Mercier, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle Grande Table.